Salut tout le monde, c'est Léa sur Radio Alpha. Bienvenue dans Thermostat 2.1, l'émission de Cap Magellan. J'espère que votre semaine s'est bien passée et que vous allez pouvoir profiter à fond du week-end. En tout cas, on est là avec l'équipe de Thermostat 2.1 pour vous accompagner pendant 2 heures. Salut Tony, Julie et Antonin
Botal.
Coucou tout le monde.
Salut tout le monde.
Aujourd'hui sur le plateau, on reçoit Georges Kocht, responsable dans l'accompagnement au quota spécial luso descendant d'accès à l'enseignement supérieur portugais. Salut Georges.
Bonjour Léa, merci pour l'invitation.
Merci à toi en tout cas d'être avec nous. Alors Georges, si tu es là justement, c'est pour nous éclairer sur le quota des 7% réservé aux luso-descendants. Et tu vas également nous expliquer comment partir étudier au Portugal, mais surtout quels en sont les avantages.
Oui, c'est bien ça.
On se rejoint voilà, au moment de l'interview, mais avant tout ça, on va débuter par le blind test avec Antonin. Vous allez devoir deviner le titre des extraits choisis et aujourd'hui, on a un thème, c'est ça?
Exactement, vous en découvrirez tout de suite après la musique, on commencera le blind test.
Exactement, donc pour l'instant, je vous laisse en musique avec Harry Styles, Late Night Talking, et on se retrouve juste après. Okay. Haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your camera. I'll do everything I can to help you through. Sur Radio Alpha pour l'émission Thermostat 2.1. J'espère que vous êtes prêts de chez vous ou en voiture pour le blind test. Alors Antonin, aujourd'hui on a un thème, mais lequel?
Exactement, pour la première fois depuis la rentrée, on va faire un blind test à thème. Ça fait un moment, j'avais pas fait ça depuis l'été parce qu'on avait de quoi rattraper avec tout ce qui s'était passé pendant l'été. Et aujourd'hui, je me suis penché un petit retour tranquille, assez proche de ce qu'on connaît bien sur les thèmes, avec la musique des années 90. On avait fait déjà une sorte d'entrée en matière quand on avait parlé du grunge et avec ce côté alternatif, mais aussi avec le rap de ces années-là et qu'on avait reçu Stomy Bugsy. Donc ça date vraiment, c'était janvier dernier.
Ouais, quasiment un an. Hein.
Exactement, c'était un moment. Et du coup là, on va se pencher un peu plus sur une idée générale de cette époque, sur le côté un peu pop électro qu'il y avait, qui était super intéressant aussi, et même avec la musique culturellement qui nous est ressortie pour nous, qui nous n'avons pas connu directement cette génération-là. Toi, peut-être un peu plus, mais en tout cas, nous, pas vraiment, on n'en a eu que certains échos. En tout cas, c'est parti maintenant pour le premier extrait de blind test, on va voir si vous l'avez.
Gangsta Paradise de Coolio qui est décédé récemment.
Exactement, bah, je pouvais pas passer en revue les différentes musiques des années 90 et surtout le rap gangsta qui est très typique de cette époque là sans parler de Coolio qui nous a délivré cette team du rap en 95 et bah, malheureusement nous a quitté il y a un mois le 28 septembre donc c'est une triste nouvelle pour le monde de la musique et on enchaîne avec une personne dont rien que le nom peut faire frémir les plus grands dont les gens du rap. Allez, c'est parti. Exactement, est-ce que t'as le titre ?
My Heart Will Go On.
Exactement.
Ah, bien,
2 sur 2.
C'était pas Titanic le titre. Oui, il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est Titanic.
C'est exactement ce que j'ai pensé.
Tiens, mais d'ailleurs, qui est-ce qui ici a vu le film ? Parce que c'est très long film.
Et
3 heures.
Depuis, je suis traumatisé par le bateau.
Et toi ?
Ah ouais ?
Ouais, j'ai vu pas mal. 2 fois. Malheureusement.
Oui, ouais, clairement, c'est un énorme classique. Bah, la musique est restée dans les annales, vraiment. C'est un grand chef-d'œuvre. On continue maintenant avec un peu plus proche de nous. C'est parti. Allons-y. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride.
Le titre, je ne l'ai pas en tête. Et le titre, c'est Blue, non ?
Pas exactement, mais tu l'as presque. Est-ce que quelqu'un d'autre ici a pensé ?
Le son d'Aboudida Bouddha. Oui.
Alors ça, c'est, tu vois, en gros, le titre exact de cette musique-là, c'est David Guetta en feat avec Bébé Rexha. Ouais. Et le titre, enfin, ça, c'était les artistes. Le titre, c'est I'm Good, entre parenthèses, Blue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un sample. Bon, c'est une musique récente, celle-là, elle est sortie... il y a 2 ans, si je me souviens bien. Non, elle est sortie fin août. Elle est sortie fin août. Pardon, oui, je confonds. Elle est sortie fin août. Et du coup, en fait, c'est un sample d'une musique des années 90 qui est la musique de Eiffel 65, qui est un groupe italien qui est sorti en 98 et qui est vraiment une musique assez iconique. Bah, le son qu'on entend. Et c'est ce que disait Julie. La musique s'appelle I'm Blue, Dabudi Dabuda. Parce que c'est Dabudi.
Les paroles très recherchées.
Exactement. Écoute, il y a des voix où il n'y a pas besoin de chercher très loin pour faire quelque chose d'efficace. Et en tout cas, c'est parti pour le 4e extrait de ce blind test. Allons-y. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Oasis Wonderwall.
Oh là là, mais quel perfect déjà pour...
celle-là, je l'ai saigné, mais vraiment saigné, hein, Oasis.
Ah, tu m'étonnes, en même temps, c'est très compréhensible. Mais tu sais que dans la communauté de la guitare, c'est devenu un morceau assez détesté, en fait.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, il est tellement joué. Tous les joueurs de guitare, qui souvent, c'est des gens qui sont connus pour essayer de pécho avec juste 3 accords, jouent ce morceau-là. Et du coup, bah, tous les gens qui jouent beaucoup de guitare, ils sont encore Wonderwall, encore... Mais tu sais que même, au final...
Ça se voit que c'est un guitariste qui parle.
Par exemple. Rien à dire là-dessus. Mais même le groupe, on était venu à être un peu frustré de qu'on leur demande toujours de jouer ça. C'est un peu à l'instar des grands groupes comme Nirvana. Aussi, quand on avait parlé du groupe, j'en avais parlé de Nirvana.
Plein d'autres musiques pourtant là, ouais.
Exactement.
J'avoue, j'ai pas les noms en tête là maintenant. Mais moi j'en ai plein.
Voilà. Ouais, en tout cas, Oasis, comme tu en disais, c'est ce groupe de rock alternatif des années 90 qui est mythique. Ça, c'était d'ailleurs sorti en 95. Tu l'avais dit le titre, Julie ?
Underworld.
Exactement, voilà, merci.
Bien sûr que je l'ai dit. Il a même pas confiance en moi.
Non, c'est aussi pour le rappeler pour nos auditeurs. Allez, c'est parti pour le dernier extrait de ce blind test. Pour l'instant, on va voir si vous arrivez à faire un perfect. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de perfect. Allez-y.
Merci de me rappeler. I think about me now and who I could have been. And then I picture all the perfect that we lived. Till I cut the strings on your tiny violin. Oh.
Blue Dabudi Dabuda.
Voilà, c'est ça.
Non. C'est pas la même.
C'est pas la même.
Non, elles se ressemblent beaucoup. Elles sont assez iconiques les deux dans le même style.
c'est même plus d'art tendance là.
Non, non, c'est. Alors déjà, ça c'est une musique actuelle. C'est une musique qui, elle, est sortie il y a 2 ans, je confonds avec l'autre. C'est une musique qui s'appelle My Head and My Heart, par Ava Max. Ava Max, c'est vraiment une artiste actuelle. Elle a sorti plein de trucs, genre Kings and Queens. Elle avait sorti The Moto avec Tiesto, qui avait vraiment percé de fou. Mais en fait, le rythme qu'on entend, c'est pas I'm Blue, c'est un rythme qui ressemble de ce côté électro de l'époque. C'est Around the World par le groupe ATM. Du coup, qui était sorti en.
Il est arrivé à 80 ?
Ouais, 90. 90 aussi. Mais... Je crois que j'ai pas la date, mais c'était genre 97,
non,
je crois. C'était
fin
90.
Enfin voilà. Tête,
et en gros, j'ai remarqué en fait ces temps-ci plusieurs musiques qui étaient dans les top tendances, qui reprenaient, qui samplaient en instru des instrus du coup de musique des années 90, c'est ce qui est le plus intéressant parce qu'on connaît cette vague des années 80 qui ressort aujourd'hui, mais maintenant on a en plus de ça, les années 90, ce côté électro-dance qu'on peut retrouver, ou même le côté alternatif avec le grunge, le rock, l'alternatif, qui peut être super intéressant. Donc voilà, je voulais vous présenter ça aujourd'hui, ces musiques-là, et on finira la rubrique sur, en hommage évidemment à Coolio.
Lui en hommage, voilà, tout à
exactement.
Fait, et on se retrouvera juste après pour la rubrique sportive de Tony. Tony, tu vas nous parler d'une grande rivalité.
Exactement.
Donc restez bien avec nous pour découvrir laquelle. A tout de suite sur Radio Alpha. You wanna tell me what this is all about? As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of my life. The situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. We'll be right back. Toujours sur Radio Alpha avec Termstadt 2.1, je te passe enfin la balle, Tony. Tu vas nous parler d'une grande rivalité portugaise aujourd'hui dans ta rubrique sportive.
Portugaise est pratiquement européenne, hein, c'est deux clubs historiques, mais on va y revenir. La semaine dernière, Porto et Benfica se sont affrontés en championnat. Bon, jusque-là, rien de nouveau, on avait déjà parlé la semaine dernière en direct. Mais cette semaine, je me suis attardé un peu plus sur cette rivalité entre ces deux clubs historiques. Les deux seuls Portugais à avoir remporté une Ligue des Champions, enfin deux d'ailleurs, deux chacun. Et dans l'histoire récente, l'avantage est plutôt à Porto, hein, qui depuis 2019 a remporté la grande majorité des duels, même si au nombre de titres, Benfica reste devant. Ouais. 37 sacres pour les Aigles, 30 pour les Dragons, on verra après en fin de saison si ça passe à 38, à 31 ou pas d'ailleurs. Et je voulais m'intéresser, parce que bon, la rivalité, tout le monde la connaît, ces deux clubs vraiment, même si tu ne connais pas le foot, tu connais ces deux clubs-là. Et je voulais essayer d'apprendre des petites anecdotes sur eux, tu vois. Et j'ai appris en faisant ces recherches que c'est grâce à Porto que le foot est arrivé au Portugal. Aujourd'hui, maintenant, en 2022, le foot, c'est le sport le plus populaire au monde, mais surtout au Portugal. Hein. Et c'est des Anglais qui l'ont ramené au Portugal. Et l'anecdote est quand même assez dingue, c'est qu'ils venaient négocier du vin, le vin de Porto.
Oui, bah c'est, les Anglais avaient beaucoup d'entreprises à Porto, justement.
Et ils venaient donc pour des négociations, et du coup, ils ont ramené ça avec eux.
C'est comme ça que le foot est...
Et c'est comme ça que c'est arrivé au Portugal.
Oui, parce que le foot a été inventé en Angleterre.
Et c'est assez dingue, tu vois.
C'est assez
et on parle de quand ? De finale du 19e, c'est ça ?
Il y a très longtemps.
Ouais.
Le premier match, bah on parle il y a très longtemps, le premier match entre les deux équipes a eu lieu en 1935.
Ah
ça, c'est
oui,
le premier match entre les deux.
Qui avait gagné d'ailleurs ?
Je vais y arriver, ça remonte un peu, mais t'aurais pas dû me poser la question.
Ah mince, je sens que c'est une mauvaise nouvelle pour moi.
Ça remonte un peu et c'est Benfica qui l'avait emporté.
Bah, pas que pour toi, parce que Georges aussi à côté.
Exactement.
Combien déjà ?
Benfica l'avait gagné 3-0.
Mais
les sourires vont changer de visage parce que c'est Porto qui avait été champion.
Ah.
Sur ce match, Benfica a gagné, mais en fin de saison, c'est Porto qui a été champion. Donc je pense qu'à choisir, je pense qu'ils n'auraient pas changé le cours de l'histoire. Et c'est quelque chose. Mais d'ailleurs, cette rivalité qui se nourrit. On parle de Porto-Benfica, il y a évidemment le Sporting aussi qui contribue à cette rivalité, mais que pour ces deux-là, c'est quelque chose qui contribue à nourrir cette rivalité, c'est que Porto a été sacré champion 3 fois sur la pelouse de Benfica. Donc ça, je pense que déjà tu perds le titre, et quand c'est l'équipe qui gagne, qui vient de gagner chez toi, ça fout un peu les boules. Et d'ailleurs, il y a une des fois où ils ont été sacrés, où Benfica avait éteint les lumières du stade. Ils avaient allumé l'arrosage.
Donc Porto
bah Porto avait célébré le titre, mais sous la flotte et sans lumière.
Donc c'est assez
cocasse, on va dire.
C'est les salons de fête de Porto maintenant.
Donc ça fait 3 fois dans l'histoire, 3 fois où Porto a été sacré sur la pelouse de Benfica.
C'est arrivé à l'inverse ou...
Bah je sais pas.
Ok, dommage.
Je me suis pas renseigné sur ça.
Rendez-vous la semaine prochaine.
Parce que justement, parce que
y a pas l'inverse.
Désolé.
Historiquement, parce que j'ai un moment en tête, un but de Kelvin notamment contre Benfica, et je me suis renseigné. Et c'est deux fois sur la pelouse du Stade da Luz et une fois dans l'ancien stade encore avant Stade da Luz. Donc ça remonte déjà.
Ah oui.
Votre domination entre guillemets remonte il y a quelques années déjà. Et puis bah rendez-vous en fin de saison pour savoir si le scénario se répète ou pas.
Exactement. Et même si en Ligue des Champions on n'arrive plus loin aussi peut-être.
On le souhaite.
Exactement.
Qui que ce soit là pour le coup, que ce soit Porto, Benfica,
Allez, on supporte tout le monde.
En tout cas,
et même Braga en Ligue Europa d'ailleurs.
Bien sûr.
Tony, je vous tiens au courant pour les prochaines semaines. Je vais vous laisser avec un classique ondiane des Kalema avant de vous replonger dans vos souvenirs d'enfance, dans l'échange de la semaine. On va parler des jeux traditionnels. Je vous pose déjà la question, vous jouez à quoi pendant votre enfance ?
Au foot.
Voilà, donc je laisse le temps de réfléchir. Il n'y a pas que le foot, j'en suis sûre. Et on revient tout de suite sur Radio Alpha. Falei contigo, eu assumo. Tu foste embora, eu entendo. Mas fico tanto amor. Estou meio sem planos. Preciso ouvir que me queres. Sentir que ainda me queres. Que não foi desta que acabou. Todos falam de ti. De como fui bobo. Te perdi por tão pouco.
Tu sabes que eu te amo. Não há espaço pra mais ninguém. Eu não agi certo, não agi. Mas preciso de ti, preciso ouvir. Preciso ouvir que me queres. Sentir que ainda me queres. E não é desta.
Échange de la semaine de Termstadt 2.1 et j'ai envie d'être nostalgique aujourd'hui. On va parler de notre enfance, mais surtout des jeux qui nous ont marqués, qui ont marqué vos récrés. Alors, est-ce que vous avez des rituels à l'école, des moments, des jeux plutôt, du coup, qui vous ont marqué?
Le ping-pong.
Ouais.
En primaire, je jouais tout le temps au ping-pong et j'ai une anecdote là-dessus. C'est que du CP au CE2, j'y jouais pas. Il y a une fille qui est arrivée en CM1 dans mon école. S'est mis à jouer au ping-pong, c'était la seule fille qui jouait. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi elle y joue et pas moi? Moi aussi, je vais aller jouer avec les garçons. Et
voilà. C'est la révélation.
Toutes les filles sont parties jouer au ping-pong à partir du moment où elle y allait.
Respect.
Voilà. C'était une portugaise en plus. Adriana Clark Carvalho, on te fait des bisous.
Et vous, les gars, alors?
Je vais pas être original. Hein. Le foot.
Oui, les mêmes.
Le foot.
Oui, bah,
les foot, les sports nationaux. Non, je rigole.
Et je me souviens qu'à l'époque, à la récré, bah, moi j'ai fait l'école primaire au Portugal et bah, c'est les écoles du village.
Ouais.
Genre il y avait 4 élèves par classe, tu vois. Il y avait des 4 classes, en gros on était 20 mais ça fait 4 classes, tu vois. Et donc on sortait à la récré pour jouer. Et je me souviens qu'il y avait une balle de foot, une balle rose. Et genre, et nous, l'école, t'avais des grillages de le portail de l'école mais qui était pas hyper haut, ou alors on tirait très mal.
Ouais.
Et bon, on va dire qu'il était pas très haut. Et du coup la balle elle sortait toujours de l'école. Et le problème c'est que derrière l'école il y avait des arbres grands et tout, et c'était une sorte de mini forêt. Voilà, comment on a galéré après pour aller chercher les balles à chaque fois et
ouais,
tout.
Ça t'a marqué, ça t'a très bien marqué.
Moi je me souviens plutôt de. Enfin, à la fois le foot parce que oui, j'y jouais, mais en soi à côté il y avait tous ces trucs de. On jouait beaucoup à genre un chat dans la cour.
Un chat,
ah, oui.
Ouais.
Un chat.
Et souvent le problème c'est que dans la cour il y avait beaucoup de monde. Moi j'étais dans une école, il y avait beaucoup de monde, c'était ici en France. Et souvent il y avait des gens qui jouaient au foot, il y avait des gens qui jouaient tu sais, à l'élastique entre les deux jambes.
Oui, j'allais le dire, l'élastique.
Et du coup, on jouait à chat. Ça m'est arrivé une fois quand j'étais petit que juste je courais et j'ai pas vu qu'il y avait un élastique par terre et je me suis ramassé la gueule. Ah, c'était vraiment ça. En plus,
ça explique beaucoup de choses, donc.
Ah là là.
Non, moi j'étais la fille qui jouait à l'élastique par contre.
Ouais,
et aussi, j'ai joué en CP, je crois, aux billes.
Ah, les billes, j'allais
dire. Aux Winx.
Les billes sur les gouttes.
Au total, j'ai pas.
Les gouttes d'égout.
Cette époque-là, des billes.
Ah, moi j'adorais, ça faisait des labyrinthes.
On faisait un trafic des billes à cette époque-là.
Ouais.
Vous arnaquez les gens.
Il y avait aussi les trafics de cartes Pokémon.
Ouais, je m'étais tout fait piquer.
Ah ouais. Moi, avec ma mère, on avait créé des cartes qui n'étaient pas Pokémon avec des autocollants et je les échangeais contre des cartes Pokémon.
Tu as fraudé avec la complicité de ta mère.
Mais ouais. C'est les gens qui voulaient mes cartes.
Encore pire, sa mère est prof.
Mais je les construisais mes cartes, les gens ils les aimaient bien, bah c'était leur choix.
Oui, c'est ça.
Hein.
Et sinon il y a la marelle aussi.
Et toi avec quoi comme Pokémon?
Je sais même pas, j'en avais plein, mais j'ai des tas et des tas chez moi. Maintenant j'ai tout donné à ma petite sœur.
Est-ce que c'est celle que t'as volée en tonneau ou pas du tout?
Non, il était pas dans la même primaire.
Encore?
Non, dommage, ça arrive après. Dommage, mais je peux aller chez lui encore, il y en a, je suis sûre, hein. Je les retrouve.
Il faut les chercher, il faut les chercher.
Et donc voilà, ça remonte un petit peu.
Ouais.
Et à cette époque-là, on a, voilà, enfin notre époque,
tu nous as lancé sur un sujet.
Les jeunes sont plus sur les portables, les tablettes, etc. Je parle comme si j'avais
la petite critique là.
On dirait nos parents, et moi à ton âge, j'avais pas tout ça. Hein.
Les jeunes.
Ouais, Noël, j'avais une orange. Hein.
Moi, j'avais qu'une orange à l'époque, tu sais.
Mais du coup, j'ai envie de vous inspirer. J'ai déniché les jeux traditionnels portables. Portugais qui sont toujours très populaires, donc des jeux ancrés dans la culture populaire et qui permettent de préserver justement certaines traditions. Si je vous parle du jogo da malha, ça vous dit quelque chose?
C'est la marelle?
Non. La marelle au Portugal, c'est a macaca a malha.
Oh.
Mais Amal, est-ce que toi ça te dit quelque chose?
Oui, je connais plutôt macaque, mais oui.
Ouais.
Les filles jouaient à macaque, voilà.
À macaque. Et du coup, pour revenir à Amal, c'est la pétanque portugaise.
Oh.
C'est un gros classique au Portugal.
T'as une forme cylindrique un peu. Ouais, c'est au pao et tu dois te dégommer avec des disques, non?
Et la malle, voilà, c'est le disque, c'est l'objet métallique que tu dois lancer. Donc,
t'avais le droit d'avoir ça à l'école?
Alors, je sais pas si c'est autorisé à l'école, mais je sais que au Portugal,
au moins dans mon âge, c'est joué surtout pour les vieux. Je sais pas si ce sont les jeunes ou les enfants, mais bon.
Et encore aujourd'hui, ça.
Justement, j'allais venir, Tony, dans le district d'Evre, par exemple, chaque année, il y a la fête de Mal. Justement, toutes les générations participent à différentes activités autour de ce jeu traditionnel. C'est assez sympa. Du coup, il y a toujours pas mal de jeunes qui jouent à ce jeu-là pour préserver en fait la.
Bah, en plus, c'est un super jeu. Il y a justement une sorte de version un peu plus nordique avec le Molki qui ressemble
aussi
un peu à ça.
Exactement. Voilà.
Même si Maïa, c'est mieux, on va dire.
Clin d'œil, hop. Sinon, il y a Oupion aussi.
Ah oui, j'en avais un.
À tous les marchés au Portugal.
C'est genre les Beyblade, mais de l'époque.
C'est ça, à l'époque.
Est-ce que toi, ça te ravit des souvenirs, Georges?
J'ai pas mal de souvenirs de pion aussi, mais j'étais très mal à lancer le pion.
C'était
compliqué. Au niveau technique, j'arrivais pas.
C'est vrai que non plus, j'y arrive pas non plus.
C'est comme le foot, j'ai dit que c'est super compliqué.
Pas bien.
Non, mais en vrai, la question est qui y arrive?
Ouais, avec le filot, parce que le pion.
Tu sais, il y a des espères, il y avait toujours un espère.
Parce que la toupie, elle est en bois et il y a un fil autour. C'est pas la toupie qu'on a en France où on tourne avec les doigts. Voilà. Là, c'est on a un fil autour enroulé. On doit lancer le fil pour lancer ensuite la toupie.
En plus, tu lances loin.
C'est ça. Et
c'est une Beyblade vraiment genre.
Ouais. C'est l'ancêtre de la Beyblade, hein.
C'est ça.
Clairement. Si vous y arrivez, n'hésitez pas à nous envoyer des vidéos.
Si vous en avez déjà.
Ouais. Moi, on est un au Portugal chez ma famille.
Il y en a peut-être, je sais pas. Franchement,
on est moi au Portugal, on jouait.
Et par contre, c'est un bel objet. Hein.
Ah oui.
Swag et Shadrij.
Ah, Shadrij, ah,
ça n'a rien à voir.
Ah, Swag, justement, j'allais y venir. On a tous joué à ce jeu de cartes, dites-moi.
Et on y a joué, nous quatre, dans le train pour aller à Macron.
Ouais. Justement.
Je dois avouer que j'y avais jamais joué avant de jouer avec Julie, tu vois.
Ouais. Ah bah moi, c'est avec vous. Enfin, si j'avais déjà joué, mais t'es une fois ou deux, donc pas assez pour connaître les règles.
Non, moi, c'est moi qui ai appris les règles à Antonin.
Ouais. Oui. En fait, moi, ma famille, ne joue pas du tout à ça.
Et pour l'anecdote, donc, selon les historiens, ce jeu aurait été créé par des navigateurs portugais. Et c'est ainsi que ce jeu donc, a ensuite été importé au Brésil et en Angola. Donc, Swag, ça a pris vraiment des proportions énormes dans d'autres pays également. Et dans le livre de Sandra Canivet da Costa, elle évoque également des rumeurs qui disent que le jeu aurait été inventé comme étant un jeu de cartes destiné aux personnes malentendantes. Donc, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si c'est vrai.
Et
ou
c'est
pas.
Pour ça d'ailleurs que les papis tapent hyper fort sur la table. C'est pour ceux qui n'entendent pas bien qu'ils puissent écouter.
Et pourquoi il s'appelle Swag? Il y a quelque chose avec les Suédois, il y a quoi?
Ouais, c'est vrai.
Alors, dans toutes mes recherches, ils n'ont pas expliqué l'origine de ce mot-là. Donc, à creuser. Mais, pour le coup, c'est vrai que pour l'instant, on n'en sait pas plus sur ce mot-là.
Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez aussi les petits vieux dans votre village qui font que s'engueuler en jouant à Swag? Ah, et là, après, ils se repayent des coups, ils sont repotes et ils reviennent le lendemain et refont la même chose.
Ça fait partie de la tradition.
Incroyable.
C'est ça,
moi, je me suis posé avec eux cet été. Je me suis posée avec eux cet été, ils étaient trop contents qu'il y ait une petite jeune qui s'assoit à côté d'eux, ils m'ont payé des coups.
Mais je sais que moi, dans mon village, tous les dimanches, enfin, du moins l'été, parce que c'est l'été que j'y suis, donc mais je sais pas s'ils font ça l'année, mais j'imagine que oui, tous les dimanches, t'as ce qu'ils appellent le Sawan qui ouvre. Donc tu sais, t'as la partie un peu alimentaire avec Tremos, Célébège, etc. Et t'as de l'autre côté, t'as les tables avec les jeux de cartes et les gens qui ils passent l'après-midi en train de jouer aux cartes.
Ouais, oui, c'est un classique. Et je vais vous parler aussi d'un jeu vraiment que moi personnellement je ne connaissais pas, mais qui est plutôt populaire au Portugal, c'est o Jogo da Cabeceira.
Oui, c'est Colin Maillard.
Voilà.
C'est Colin Maillard.
Et donc on peut jouer à plusieurs, et l'objectif c'est qu'un joueur aux yeux bandés puisse saisir et identifier l'un de ses coéquipiers par le toucher, et dans un espace donc préalablement défini, j'ai envie de dire. Et quand un des joueurs est attrapé, celui-ci ne doit pas parler, car le joueur aux yeux bandés doit essayer de le reconnaître.
Ouais, donc, et souvent les autres font des distractions, ce genre de choses, ouais. C'est fun.
Moi j'ai déjà joué, c'est ultra marrant.
Ouais, je me souviens, on jouait souvent dans la cour à ça, et sinon quand on n'était pas dans la cour, quand on était chez nous avec des amis, on jouait dans la chambre de ma sœur, et on foutait le bordel dans la chambre.
Ta sœur, pas la tienne, parce qu'après tu fais le bordel, il était dans la tienne, bah oui, il est malin lui.
Elle devait être contente ta sœur. Oui. Et après il y a la course de sac aussi, j'ai déjà testé, mais en France personnellement.
Ça l'a déjà fait ça aussi.
C'est marrant.
Mais sinon il y a juste As a Poignard.
Oui, classique.
Par
contre, moi, juste au Portugal, ils ont tendance à faire Azapanyade, où tu dois compter jusqu'à 40.
Ouais.
Et après, tu vas chercher. Enfin, genre, tu peux pas sortir dans un certain périmètre et tout, tu vois.
Bah, faut bien des règles pour.
Et pour information, vous pouvez toujours jouer à ces jeux traditionnels au Portugal quand vous allez en vacances ou même pendant le reste de l'année, parce que plusieurs municipalités, justement, organisent une rencontre de jeux traditionnels au Portugal dans plusieurs régions et villes. Pour justement transmettre cette culture et la maintenir les traditions avec tous ces jeux-là.
Oui, même ça permet de créer un groupe soudé dans la jeunesse du pays,
du village
ou de la ville.
Donc c'est plutôt assez sympa. Donc voilà, on a ravivé nos souvenirs, on est assez nostalgique.
Et là, je pense à nos parents et nos grands-parents qui écoutent et qui optaient. Parce que nous, c'est des jeux de notre enfance, mais eux, ils étaient déjà adultes.
Oui, mais après, je pense qu'ils ont eu des similitudes. Et je pense qu'au fond d'eux, ils sont fiers qu'on parle de ça et qu'on parle pas de... Je sais pas, de la télé.
Et TikTok,
ou de...
justement. Est-ce qu'on parle de TikTok?
Est-ce qu'on parle de TikTok?
Tiens. Tu vois, c'est mieux de parler de swag, de chadrige, de dames,
les traditions,
billard ou quoi que ce soit, que de parler de.
Au billard en primaire, faut le faire quand même.
Ah, moi j'y jouais hein, avec mon papa.
Ah ouais?
Avec mon papa, nous, il y a le club de mon village où il y a tout, il y a chadrige, dames. Mon grand-père, il était dans les compétitions de dames nationales.
Ah ouais. En tout cas, je pense que voilà, on aura le temps d'en reparler, de toutes ces traditions-là, de tous ces jeux-là qu'on connaît de loin, de près. Et pour l'instant, je vais vous laisser avec Été 90 de Thérapie Taxi et on revient juste après pour Ushkadelmj de Jouli. A tout de suite.
Si on savait pas, on a évité les regards ambigus, on a fait comme si on pouvait pas. On a dessiné la zone, évité les roses, repousser la faune, compliquer les choses. Mais maudit ami, je veux plus danser ce slow avec toi. Souviens-toi des années 90, quand dans la cour tous les jours j'étais ton roi. Tu as bien grandi et tu me brusques, et parfois même tu te lèves dans mes bras. Mais jamais, jamais, jamais plus, car je le sais, je suis l'homme qu'on ne voit pas. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à nos rôles. Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose. Tu as décidé des règles en fin de jeu. J'étais teenager amoureuse. Puis le temps s'est écoulé en moins de deux. Fini les années délicieuses. Mais maudit ami, je veux plus danser ce slow avec toi. Souviens-toi des années 90, quand dans la cour tous les jours t'étais moi. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à nos rôles. C'est triste, mais je suis sous hypnose. Plus tu t'approches et plus j'appuie sur pause. Et seul tous les soirs.
Mais seul tous les soirs.
Et seul tous les soirs, je reste dans le noir.
Et seul tous les soirs, je reste dans le noir.
Et seul tous les soirs, je reste dans le noir.
Et seul tous les soirs, je reste dans le noir.
Amour
c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour, amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à nos rôles. Je serai là pour toujours ton épaule. Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose. Plus tu t'approches et plus j'appuie sur pause.
Temos estado 2.1 na Rádio Alfa e esta semana a Julie vai nos falar do Dia Nacional do Livro no Brasil.
Exatamente, que é comemorado hoje, no dia 29 de outubro, como todos os anos. E sabem porquê? Porquê esta data?
Não faço ideia, não?
Boa pergunta.
Que é um livro histórico do Brasil que foi publicado.
Ou um autor, talvez, ou alguma coisa assim.
Ah, pois, data de nascimento ou de morte de um autor, se calhar.
Acho que é a primeira vez que não.
Ah.
Por acaso, não. Não, nesse dia, em 1810, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro foi fundada, simplesmente.
Ok, e era tipo a primeira biblioteca de...
Não, havia a Biblioteca Real antes, mas eram mais bibliotecas portuguesas.
Okay.
Eu sei que para esta Biblioteca Nacional houve muitos livros da Real Biblioteca Portuguesa que foram trazidos de Portugal para Rio de Janeiro. E hoje a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro é a maior da América Latina e está entre as 10 maiores do mundo.
Opa, incrível.
E sabem qual foi o primeiro livro editado no Brasil? A data, sabem?
Ui, a data.
Então,
depois... a data. Mas li aí as datas.
1570.
Não, não. Muito...
Era antes ou depois da independência do Brasil?
Muito depois.
No século XVIII.
Ah, ok.
É mesmo
recente?
É perto da data de... Da data da fundação da Biblioteca Nacional.
Oh, já me esqueci da data.
No século XIX.
1810.
Ok.
É, no século XIX, foi, o livro foi Marília de Disseu, em 1808, uma obra poética de Tomás António Gonzaga, que era um poeta português, nem brasileiro, do final do século XVIII e início do século XIX. Foi um jurista, poeta e ativista público que participou no movimento pela independência de Minas Gerais, assim como foi precursor do processo que conduziu à separação do Brasil de Portugal. O que explica, acho que seja o primeiro do Brasil, o primeiro livro do Brasil.
Ok.
E sabem que gosto muito de literatura e de livros, mas conhecem a história do livro?
Tipo, o livro em geral?
Sim.
O objeto.
Yeah, o objeto.
Não sei, tipo, primeiras escrituras, tipo isso, ou a Bíblia, livros...
Começa com isso.
É isso.
Passou por diversas transformações, desde o surgimento do alfabeto. Os povos de antiguidade escreviam em pedras ou em placas de argila, acho que já estudaram isso em história.
Yes.
A técnica foi inovada e surgiram os papiros, por volta do 3000 a.C., no Egito Antigo, e depois surgiram os pergaminhos com mais resistência, o que facilitou o acesso aos textos. Depois, na Idade Média, o povo era analfabeto e o acesso aos livros e ao conhecimento era reservado a uma minoria, como homens de igreja, ou nobres, exato, e passagens, acho que já viram em muitas igrejas, passagens da Bíblia são desenhados nos vitrais, exatamente, obrigada, para que esse conhecimento seja para toda a gente, mesmo as pessoas que não sabem ler, que sequer é o povo. E os monges copistas eram pessoas destinadas a fazer a cópia de obras pela maioria eram religiosos, as obras, como a Bíblia. E acho que já viram, não sei, nas aulas de história, aqui, tipo, grandes salas com montes de monges copistas, não viram essas imagens nas aulas de história?
Penso que uma vez tinha tido num mosteiro e tinha visto uma sala mesmo de monges copistas.
Sim.
E era super impressionante, e passavam dias ali, porque era o trabalho deles, de copiar livros, todo dia copiavam. E também com os... não conheço a palavra em português, é ornimínio.
Illuminatis.
Ok, se diz também assim. Eu não queria fazer português.
E depois, no século XV, o inventor e gráfico alemão Johann Gutenberg revolucionou a história do livro, introduziu a técnica de prensa móvel, ou seja, a tipografia, já descoberta na China anteriormente, o que permitiu a reprodução de cópias e a popularização do livro. E claro, já sabem que desde sempre as civilizações tinham o intuito de guardar o conhecimento e de passá-lo de gerações em gerações, mas era mais de maneira oral e desde alguns séculos é na escrita. E agora, a partir do século XX, vimos servir outros suportes, para os livros, como audiolivros. Nicolas Sarkozy, já ouviram essa publicidade?
Tão de tempête.
e e-books, etc. E vocês preferem ler papel, telemóvel, computador, tablet? O que é que preferem?
Telemóvel.
Papel.
É mais simples, até no metro, no comboio, é mais fácil.
Para uma questão de simplicidade, é sempre telemóvel. Eu leio muito no telemóvel. Sim, mas para a questão de o que é mais agradável, é claramente o livro.
Se tenho a escolha de ler uma coisa em papel, telemóvel, tablet ou computador, prefiro o papel.
Eu lembro de uma vez.
Com os dedos e tens um cheiro do papel.
É, o cheiro. Eu lembro de uma vez
que também não leio tanta cabeça.
Numa casa de um autor antigo português e tínhamos livros do século XVIII ou XIX e ficámos ali
a cheirar
os livros e era incrível, muito engraçado.
E tu,
era
Jorge?
Depende muito do que estejamos a ler. Se for notícias, obviamente telemóvel, mas se for, por exemplo, romances, eu acho que eu não consigo ler um romance no Kindle. Não consigo ler. Portanto,
não.
Livro sempre físico para mim.
Pois, para mim também. E eu acho muito engraçado que as vossas respostas sejam esta, porque agora estamos num mundo mesmo muito informático, onde tudo lê-se na net, e acho que é importante guardar esse hábito de ler no papel. Mas pronto, voltamos ao dia do livro. O que é que se faz, na vossa opinião, no Brasil neste dia?
Por isso.
Compram-se livros, sim.
Leituras livros. Conjuntas, organizadas.
Sim, também.
Entrevista de autores, coisas assim.
Por exemplo, nas escolas, há leituras de livros pelos alunos ou pelo autor, às vezes, apresentações teatrais, idas a bibliotecas. O importante é mesmo incitar os estudantes a ler e despertar neles o prazer da leitura, reforçar a importância do livro como difusor de conhecimento, o que já vimos. Os professores podem falar da origem e história do livro, como acabamos de o fazer. E depois, nas bibliotecas e livraria, muitas vezes escritores vêm falar do seu trabalho e podem ver apresentações dramáticas de obras da literatura nacional ou mundial. E também, para aqueles que estiverem interessados, pode haver descontos em algumas livrarias com o objetivo de estimular a prática da leitura, o que é muito importante, particularmente no Brasil.
Exato. E mesmo se não comprem livros, o que é super interessante, falavas da biblioteca em Rio de Janeiro antes, é ir em bibliotecas, porque é grátis, ir a uma biblioteca, inscrever-se, tirar uns livros que são ofertas a todos e tens uma reserva incrível de livros. Eu sei que uma biblioteca, para mim, é um espaço... tipo, sagrado do conhecimento.
É um espaço seguro, calmo.
Exato.
Com menos stress. E também é muito bonito. E outras datas importantes em relação a esse dia é dia 18 de Abril, Dia Nacional do Livro Infantil no Brasil, dia de nascimento, desta vez sim, do escritor de histórias juvenis Monteiro Lobato. Já ouviram falar desse nome, ou nem por isso?
Então, falar, sim. Sim, sim.
Eu conheço. Ele é muito conhecido, sobretudo no Brasil, sim.
Sim,
mas...
sobretudo por livros para crianças.
Sim, isso. É isso. Mas é um grande autor de livros para crianças no mundo lusófono. E depois, 5 dias depois, ou seja, no dia 23 de Abril, é celebrado, ai desculpa, o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor, data instituída pela Unesco em 1995, que recorda a data da morte através de Miguel Cervantes, Shakespeare e Inca Graciloso de La Vega, ou seja, nomes muito importantes na literatura.
Obrigada, Julie. E agora, antes de descobrir o artista que vai apresentar o Tony, esta semana na Tempestade 2.1, eu vou-vos deixar com uma música que descobrir esta semana, Nuno Alves, Coordenadas. Até já!
Ainda não sei se se andamos encontrados ou vivemos isolados. Será que tu existes ou esqueceste que eu existo? Depois de tudo isto estou aqui, respiro e ainda resisto. Procuro estar desperto quando vivo adormecido, mergulhado na realidade, perceber que na verdade meu coração bate a metade. Será que procuro é apenas uma saudade? Será que me ouves? Gostava de contar a história da minha alma, tudo aquilo que me acalma, encontrar o sentido da minha bússola e datas coordenadas do meu conto de fadas. Se me perguntam para saudade, apenas sorri, desconverso. Por enquanto submerso, preso neste universo, eu tento subir à tona enquanto afundo. Deslizo para o fundo e este sonho que é profundo.
Sei que tenho tanto para dar, prometo estar bem e nunca parar. Enquanto vivo é aqui que eu vou estar. O que é que falta para eu te encontrar?
Onde é que estás? Se és a minha paz, porque é que andamos para trás? Fica a esperança que me aquece quando o meu corpo arrefece. Coberto pelo frio, permaneço no vazio, remar só contra o rio. O meu tempo passa, fico mais maduro e seguro a viver em cima do muro. Depois de tantas noites acordar, procuro as borboletas neste estômago apertado. Prometi que não desisto, resisto e persisto até que Deus me inclua debaixo da tua lua. Por enquanto só, apertado por um nó que se atravessa na garganta, me segura e levanta, crente em profecias. Sigo mãos vazias, sem espaço na parede para contar mais estes dias. Mas mesmo que me tapem os ouvidos e a boca, saberás comigo, a tua alma não é oca.
Sei que tenho tanto para dar, prometo estar bem e nunca parar. Enquanto vivo é aqui que eu vou estar. O que é que falta para eu te encontrar?
Quero que saibas que é uma parte de mim que ainda não voa. Ficou presa pelo chão nesta história que ecoa. Arde quando passa pelos dedos, ausente segredos, rodeados dos meus medos. Dentro do meu casulo, no silêncio que eu anulo, ainda há uma das correntes que eu espero que parte. Cinzas cobrem o meu corpo enquanto permanece inerte. Escrever mais esta carta, onde é que tu estás? Porquê é que isto demora? Será que esta sombra nunca mais vai embora? Tantas perguntas que assombram a minha mente. Como diziam os meus avós, um dia tudo será diferente. Mas toda a vez que o meu sol brilha, eu faço sinais para que procures a minha ilha. É por isso que acredito no final diferente, aquele em que vivemos felizes para sempre.
Sei que tenho tanto para dar, prometo estar bem e nunca parar. Enquanto vivo é aqui que eu vou estar. O que é que falta para eu te encontrar? Sei que tenho tanto para dar, prometo estar bem e nunca parar. Enquanto vivo é aqui que eu vou estar. O que é que falta para eu te encontrar?
h passées, vous êtes sur Radio Alpha pour Thermostat 2.1. Merci d'être avec nous. Dans le prochain quart d'heure, vous allez pouvoir découvrir grâce à Tony un artiste ou une artiste lusophone. Et juste après, on aura la rubrique d'Antonin, la fameuse boîte mystère. Alors, Georges Costa est toujours à nos côtés depuis une heure déjà. Alors, tout se passe bien, Georges ?
Tout va bien.
Tout va bien, au top. Alors, pour rappel, tu es responsable dans l'accompagnement au quota social luso-descendant d'accès à l'enseignement supérieur portugais. Et au moment de l'interview, qui approche d'ailleurs à grands pas, tu nous parleras de l'opportunité d'étudier au Portugal et surtout des bénéfices en fait des 7%.
Oui, c'est bien ça, c'est la grande opportunité.
Donc voilà, restez bien avec nous pour les découvrir. Et en attendant, Tony, c'est à toi de jouer.
Voilà. Et si je vous disais qu'aujourd'hui, on va parler d'une artiste encore plus jeune que Thermostat 2.1, est-ce que vous me croirez ?
Bon, en vrai,
on te fait confiance.
C'était bien plus,
plus jeune que Thermostat, non ?
Non.
Toi non,
ah, moi,
et les
non,
autres
je crois.
Moi je te fais confiance.
De toute façon, peu importe ce que tu dis, je te crois jamais. Toi.
Bah, on rappelle déjà que t'aimes ça.
La c'est confiance d'équipe est pesante.
faut pas la calculer, laissez-la. Elle est hater, faut pas les calculer dans la vie.
Exactement.
Bah, on rappelle déjà que Thermostat a fêté ses 1 an en avril dernier. Ouais. 1 an. Donc je vous répète la question, est-ce que vous pensez que je peux faire un artiste plus jeune que ça?
Ah ouais, à ce point-là.
Une artiste ou une carrière musicale?
Une artiste plus jeune que ça?
Non.
À part si
non.
C'est une artiste virtuelle?
Non, non, quand même pas.
C'est une IA.
Non, non.
Il y a des artistes comme ça. Hein. Ouais. Atomy,
bah,
coup.
Bah, allez, déjà
on t'a cassé tout.
Mais oui, vous parlez trop là.
Ah là, vas-y, parle-nous. Parce que là, tu m'intrigues, c'est personne qui a moins d'un an.
Non, il faut recommencer surtout.
Pas moins d'un an, du coup, je pense. Quoi ?
Bah, faut recommencer surtout.
Pourquoi ?
Mais
quoi ?
Bah, moi, j'ai, genre, pendant que je parlais, je dis, bah non, mais faut recommencer. Genre, et après, vous allez recommencer à parler derrière.
Bah alors ?
Hein ?
J'ai
en gros.
Qu'est-ce que tu me fais ?
Parce qu'au moment, elle a dit, bah là, on a cassé son truc. Et du coup, je dis, bah oui, du coup, faut recommencer. Oui, mais j'avais pas compris.
Oh non.
Bah oui, bah, ça après, va, c'est l'intro. C'est que l'intro.
Bah reprends, à toi de jouer.
Tu peux reprendre, à toi de jouer.
Ouais, ouais, c'est ça, je refais que ma partie à moi.
À toi de jouer, là tu reprends. Vas-y.
Et si je vous disais qu'aujourd'hui on va parler d'une artiste encore plus jeune que Thermostat 2.1, est-ce que vous me croirez ou pas ?
Que moi, l'émission ou que, nous ?
Que l'émission.
Je te fais confiance.
Le projet qui a un an d'ailleurs, on rappelle.
Un an et là on est plutôt
un peu plus d'un an, on va dire. D'ailleurs, on a déjà beaucoup d'abonnés, donc on remercie pour ça.
Exactement,
merci à tous.
Mais
exactement.
Mais du coup, oui.
Plus jeune, c'est compliqué.
Plus jeune, ouais, c'est, tu m'intrigues.
Prends sa carrière, du coup, est plus jeune.
C'est compliqué. Bah, pour ce qui est d'artiste du jour, ouais, je vais lever le voile. Je reconnais avoir été légèrement taquin dans ma question, parce qu'il est question d'une jeune artiste, mais jeune en termes de carrière, parce que sinon elle a quand même déjà 32 ans. Alors, non pas que ce soit vieux, attention, je vais mettre personne à dos, mais ça reste quand même plus âgé que Temstadt. En réalité, ce samedi, je m'intéresse à Juliette Freire, chanteuse brésilienne qui a sorti son tout premier album en septembre 2021, soit quelques mois après les débuts de ce joli projet qu'est Temstad. Et je ne l'ai pas choisi par hasard, j'ai mes raisons. Bah déjà, c'est parce que j'avais envie de vous piéger, hein, déjà par rapport à ça. Mais
le
c'est
malin.
Aussi, et surtout parce qu'elle est en tendance d'écoute au Portugal depuis plusieurs semaines avec son titre Diferença Mal. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes au bon endroit.
O pé saiu do chão, acelerou meu coração. Nosso sorriso é a prova que é tão bonita essa soma. Eu sou do Nordeste, ele é do Sul. Prefere rap, eu sou mais gadu. Ele vem de bicicleta, eu que nunca fui atleta. Sabe quando? Fica até mais tarde. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Meu coração agradeceu. Ah, teu beijo me deixou de cara. A nossa química é rara. Nossa diferença é mara. Teu beijo me deixou de cara. A nossa química. Coração, nosso sorriso é a prova que é tão bonita essa soma. Eu sou do Nordeste.
Si vous nous rejoignez que maintenant sur Radio Alpha, vous arrivez au bon moment. L'interview avec Jules Coste arrive à grands pas. Et si vous étiez déjà présent à nos côtés, vous savez qu'on est en plein dans la présentation de Juliette Freire, la brésilienne à la jeune carrière. Mais comme dirait l'autre, moi on parle pas d'âge. Parce que oui, malgré le fait que seuls 13 mois se soient écoulés depuis la sortie de son premier album, les chiffres sont déjà démentiels. La trentenaire cumule plus de 57 millions de followers tout réseau confondu, et ses sons dépassent quasi systématiquement les 3 millions d'écoutes sur les plateformes de streaming. Elle est fille d'une coiffeuse, la petite Juliette s'est dans un premier temps rapprochée de l'esthétique, elle qui a découvert le monde du travail en tant que maquilleuse professionnelle, en parallèle de ses études de droit. Mais c'est finalement vers la télé qu'elle s'est dirigée, et vous allez comprendre pourquoi ses abonnements sont déjà si élevés. Elle a intégré la version brésilienne de la télé-réalité Big Brother, que je pourrais vous présenter en fond, en large, en travers, tant mes parents suivent assidûment la version portugaise, et s'ils m'écoutent, ils pourront pas le nier. Mais là n'est pas le sujet. En participant à la saison 21 de ce programme TV, Juliette s'est dévoilée aux yeux du public, qui est de suite tombée sous son charme, et sa cote de popularité a explosé à tel point qu'elle a remporté le jeu, mais elle a fini par gagner bien plus que ça, alors ne bougez pas, on écoute Benzine, son tube aux quelques 10 millions de streams, et je vous explique tout ça juste après.
Eu já comprei passagem só de ida daqui. Porque se há de volta eu tiver, eu sei que eu nem vou. Eu sou gaivota que esqueceu como voar. Peixe de rio que já se perdeu. Porque se há de volta eu tiver, eu sei que eu nem vou.
Et avant de se lancer dans le maquillage et les études de droit, Juliette était comme Gad Elmaleh. Elle rêvait alors non pas d'une banque, mais de devenir chanteuse. Mais faute d'argent, elle s'est faite à l'idée que ce ne serait pas possible. Et pourtant, elle avait déjà un pied dedans. J'abuse peut-être un peu, disons quelques orteils. Et elle fréquentait des églises évangéliques et commençait à s'intéresser de plus en plus au gospel, allant même jusqu'à enregistrer quelques morceaux. Et avec la médiatisation qu'elle lui a rapporté Big Brother, elle a pu enfin se donner le droit de rêver. Et avec le recul, je pense qu'elle a bien fait.
Je pense aussi, Tony, en tout cas, merci pour cette belle découverte. Restez bien avec nous dans un instant sur Tempchat 2. Vous allez assister à la boîte mystère suivie de l'interview avec Georges. Mais pour l'instant, on va vous laisser profiter avec Un Ratito de Juliette Frère avec Wish Fancy, Allo, Clunay et Lenny Tavares. A tout de suite.
Entonces, dígame usted, si quiere que hable con respeto, distancia y con precaución. Entonces, dígame usted, si de una vez no pensamos y salimos de esto.
Paga pra ver qual é a consequência. Se demorar, eu perco a paciência. Agora não tem saída, porque uma noite comigo é só uma chance na vida. Ai.
Aunque sea un ratito. Que le va a dar, ti no me rehuso, mira dónde estoy metido. Yo te doy permiso, úsame, si te quedas otro ratito conmigo. Tú me seduces y te tiento, sabes que hace tiempo tú me gustas tanto. Fanática de que navega en tu cuerpo, aunque pa' mí sea un templo, yo no soy un santo.
Baby, pero quédate.
Aunque sea un ratito y ya.
Sur Termstadt 2.1, merci d'être avec nous et c'est enfin le moment de la boîte mystère. Antonin, alors est-ce qu'on a un thème ou pas cette semaine?
Il y a toujours un thème, mais bon, c'est plutôt blind test, il n'y a pas forcément de thème. Mais oui, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un truc qu'on avait déjà fait avec les expressions françaises et cette fois-ci, on va faire les expressions portugaises. Donc la dernière fois, pour vous rappeler, vous rafraîchir à la mémoire, à vous qui nous écoutez et à vous sur le plateau, et pour toi, du coup, je vais te le faire découvrir, Georges, c'est du coup. On avait fait un truc où c'était, je donnais le début d'une expression et ensuite vous deviez essayer de trouver le ou les mots qui manquaient. Et du coup, le but c'était d'aller assez vite, donc d'enchaîner les expressions, j'en ai une bonne réserve. Et s'il y en a certaines à la fin que vous connaissez pas, j'ai les définitions entre guillemets, des équivalents en français, donc on pourra en discuter après. Est-ce que vous vous sentez prêt?
Ouais, on est prêt.
Allez.
Ok, donc cette fois, je rappelle, c'est tout en portugais, c'est les expressions portugaises. Ok, 3, soyez rapide. 2, 1. Quem tem boca?
Vai a Roma.
Voilà. Ich sta in Palpus de. Ich va comer. Ich sta in Palpus de.
Ich sta in Palpus de.
Ça me
parle. Palpouge.
Ça me parle pas ça.
Palpus.
Palpus.
Ça me dit rien.
Ok, dommage. On la verra plus tard. Fais-y une tempestade non couple.
D'agua.
D'agua, ouais. Ouais,
c'est nous ça.
Ça oui.
Eu fiz isso com uma perna às
costas.
Exato. Vai pentear
macacos.
Fort, fort.
Mais trop fort, Georges.
On a l'expert ici.
Désolé.
Il est trop rapide pour nous.
Oui, bien sûr. C'est ir à.
Général.
Non.
Rouge.
Non.
Fog.
Nationalité.
À française.
Ouais.
Et à grande à française, l'expression.
Ouais. Et dernière que j'ai en réserve, mettez le roussillon. Mettez le roussillon.
Je vais pas dire n'importe quoi.
Ça ne dit rien du tout.
Mettez le roussillon,
ne. Ne. Non.
Roussillon, vous savez ce que c'est ?
Ah, mais ça me dit rien là, les expressions, ça me dit rien.
Oui.
Bah, du coup, on va passer à la partie entre guillemets réponse. Donc, bon, quem tem boca vai a Roma, vous l'avez connu, oui. Vous la connaissez tous, c'est bon. Mettez le Roussillon à Rua da Bethesda. Rua da Bethesda, c'est une des plus petites rues de Lisbonne. Ouais, et Roussillon, bah, vous savez ce que c'est une énorme place à Lisbonne.
Et
du
coup, bah. C'est...
Voilà, et c'est ce genre d'expression en mode. Voilà, c'est ce genre d'expression où tu dis, bah, c'est faire quelque chose d'impossible, qui paraît impossible. Estar en Palpus, c'était Estar en Palpus de Aragne. Être pris dans les mâchoires d'un araignée, littéralement.
Ah, c'est
et je la connaissais pas non plus avant, mais en gros, c'est t'es dans le beau drap, t'es dans une situation qui va pas être facile, ce genre de choses. Bon, ça, il est français, c'est une très connue.
Ouais.
Je trouve ça toujours drôle comme quoi, dans chaque langue, il y a des équivalents comme ça.
Non, mais, genre. Ils clashent beaucoup les français. Hein.
Mais même les français.
Ils ont raison.
Mais on s'aime.
Et tu sais, ce qui me fait rire aussi, sur, ben, la même expression sortir à la française, c'est donc se partir en douce et s'enfuir discrètement. Ouais. Et la même en anglais, c'est take the French leave. Et là, en français, c'est sortir à l'anglaise.
Oui, bah,
du coup, tu vois,
tout le monde s'entreclash. Et je trouve ça trop drôle.
Je trouve que si les Anglais et les Portugais disent la même chose, on peut peut-être se poser des questions. Hein,
par exemple. Et du coup, les autres, vous les aviez. Coin perdre mes hachkoches, c'est quelque chose que tu fais très facilement. Pentear macacouche, c'est quand tu fais au revoir.
Allez, d'ailleurs, j'ai pas compris. Enfin, perdre mes hachkoches, moi je peux pas mettre me perdre.
Exactement, parce qu'en français, souvent on dit faire quelque chose avec les doigts dans le nez. Mais c'est facile, les doigts dans le nez.
Oui, c'est pas très sympa, mais c'est.
Oui, c'est pas agréable. Mais voilà, c'est facile, c'est faisable en tout cas.
Mettre me perdre mes hachkoches, enfin.
Non mais plutôt pour
tu te plies,
t'es très souple.
Quoi.
Je suis clairement pas assez souple pour le faire. Enfin voilà, et j'avais pas expliqué la signification de Kentang Bokabai en Rome, c'est les gens qui osent parler, faire les choses, ils peuvent tout faire.
Ils peuvent tout réussir.
Exactement.
C'est ça.
Bah, c'est et si en français tu as
Oui.
Vas-y, Julie, t'en as.
Et si ?
Non.
Bah, si.
Avec des si, on change la vie.
Oui, il y a ça, et puis si ma chanchouette avait X, et bah ce serait Y.
Bah après c'est pas exactement c'est pas la même chose.
Ouais mais dans l'idée c'est globalement
non parce que celle-là c'est plus une question de te forcer à parler que... genre c'est j'aurais quoi comme équivalent c'est en gros c'est pour demander tu les forces pas mais inciter les personnes qui sont un peu plus passives dans la vie à prendre les choses
des
en main
décisions et
prendre des décisions et
atteindre des objectifs c'est ça
exactement
du coup t'avais une expression
moi j'en ai une c'est t'es le macaque que je nous sorte hein. Ça veut dire avoir une araignée au plafond.
Ah oui, ouais.
Voilà.
Et tu connais la signification.
Oui, macaquinge, c'est ça. T'es une macaquinge, nous sentons.
Et vous avez la signification.
Avoir une araignée au plafond, ça va être un peu bébête, quoi.
Ouais. Je me souviens de un peu dans le même contexte, j'avais ma prof de portugais quand j'étais tout petit qui me disait, parce que j'étais très tête en l'air, que je mangeais du fromage parce qu'il y avait des trous dans le fromage. Du coup, j'avais pas la formulation d'expression directement, mais ça m'est resté. Du coup, d'assurer voir du fromage avec des trous, je suis en mode. Ça me rappelle quelque chose. Enfin, voilà, fin des expressions portugaises pour cette fois-ci.
Merci Antonin. Et dans quelques instants, on passe à l'interview avec toi, Georges. Mais avant, on va écouter la musique que tu as choisie. À tout de suite.
Destino que nous amarra. Por mais que seja negado. As cordas de uma guitarra sempre que se ouve um gemido numa guitarra a cantar fica-se lá. Vontade. gente da minha terra. Agora é que eu percebi esta tristeza que traz.
Stade 2.1, Georges Coste, alors tu es responsable de l'accompagnement personnalisé au quota spécial luso-descendant, spécialement pour un accès à l'enseignement supérieur portugais, et aujourd'hui tu vas nous expliquer tous les détails pour partir étudier à l'étranger. Alors, dans un premier temps, on a envie de savoir concrètement quelle est ta mission et ton rôle au sein de Cap Magellan.
Bonjour Léa, merci pour l'introduction. Alors, mon rôle, c'est surtout d'accompagner les jeunes luso-descendants à accéder à l'enseignement supérieur portugais. Je réponds surtout à des questions, j'accompagne des dossiers et j'aide dans toutes les questions bureaucratiques qui beaucoup de fois sont un obstacle pour les jeunes portugais à l'étranger.
Alors justement, tu nous fais une mise en avant de tous ces projets-là. Alors Cap Magellan ont mis plusieurs campagnes pour valoriser les études et les formations de l'enseignement supérieur au Portugal, notamment sur le quota spécial des 7% réservés aux luso-descendants. En quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'enseignement supérieur portugais et ce que signifient les 7%?
Alors, très bien. Je pense que l'enseignement supérieur portugais est très similaire au français, mais il y a des petites différences qu'il faut parler. Alors, normalement, il y a l'enseignement secondaire. Après l'enseignement secondaire, il y a l'examen national et les jeunes partent après pour l'enseignement supérieur. Alors, c'est très similaire au bac. Après, pour accéder à l'enseignement supérieur portugais, ça compte aussi les notes générales de secondaire, mais aussi la note de l'examen national, 50% pour chacun. Après, je peux commencer aussi pour les quotas 7%. Les quotas 7%, c'est une grande opportunité pour les jeunes luso-descendants et immigrants, pas seulement en France, mais à l'étranger, parce que ça permet de manière prioritaire d'accéder à l'enseignement supérieur. Ça veut dire qu'il y a 7% des places de l'enseignement supérieur portugais sont dédiées aux jeunes Luxembourgeois qui terminent son bac ou son enseignement secondaire à l'étranger. Il faut dire aussi que ces étudiants sont dans les concours un avec les autres, alors ils ne sont pas obligés à concourir contre les concurrents portugais. Alors, c'est pour ça que c'est prioritaire pour les jeunes, les autres chandons.
Est-ce que tu peux nous donner trois raisons pour lesquelles on devrait justement postuler ?
Oui, alors la première, c'est une raison qu'on ne parle pas beaucoup, et beaucoup de fois les parents et les jeunes ont des doutes, c'est que l'enseignement supérieur portugais, il est très bon au niveau de scientifique et technique. Beaucoup de fois on se méfie de l'enseignement supérieur portugais, je comprends très bien, parce que voilà, les marchés de travail, il est compliqué, tout ça. Mais après, il faut dire qu'en général, l'enseignement supérieur au Portugal, il a beaucoup évolué, et qu'aujourd'hui, en beaucoup de domaines différents, on est sous l'avant-garde. Alors, ça veut dire qu'un enseignement supérieur moderne était motivé pour l'avenir.
On a un très bon niveau.
Un très bon niveau, oui.
Et si on souhaite s'inscrire et partir nous aussi étudier au Portugal, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les démarches ? Comment ça se passe concrètement ?
Alors, comme on vient de parler, je pense que les quotas à 7% c'est la meilleure manière d'accéder à l'enseignement supérieur portugais. Alors, mais c'est un processus très compliqué au niveau bureaucratique, et c'est une des questions que nous amène ici pour parler, c'est qu'il faut à l'avance avoir pas mal de papiers et contacter pas mal d'acteurs et d'institutions différents pour avant tout prouver les statuts des migrants. Après, pour faire l'équivalence des notes et des examens faits en France dans ces cas, pour arriver au Portugal, il demandait de l'équivalence à une école secondaire au Portugal. Après tout ça, il faut faire les concours sur l'internet. D'accord. Mais beaucoup de fois, il faut prouver tous ces papiers, il faut signer tous ces papiers. Alors ça peut être long, je dirais 1-2 mois. Et c'est pour ça que c'était compliqué, parce que alors les bacs, on a les résultats des bacs en juillet, et en final de juillet, c'est les concours.
D'accord. Donc pour toi, le premier obstacle majeur, c'est surtout cet aspect bureaucratique, justement, qui complexe ces démarches.
Oui. C'est surtout parce que pour les jeunes, il faut se déplacer en différentes institutions entre la France et le Portugal. Mmh. Alors il faut prévenir beaucoup de temps et d'argent à dépenser pour accéder à ces concours.
Oui, parce que donc il faut payer justement pour le dossier, pour aller au Portugal, du moins.
Ça, c'est une bonne question. Il ne faut pas payer vraiment, mais après, il faut payer pour chaque papier des petites sommes. Mais je pense que les temps, c'est l'obstacle principal. Alors imaginez-vous qu'il faut aller dans une école secondaire au Portugal pour faire prouver son équivalence. Alors, bien sûr, on peut demander directement à la DGS, c'est la Direction Générale d'Ensino Supérieur, mais ça prendra plus de temps. Alors, la plupart des parents vont directement à l'école secondaire portugaise. Oui.
C'est plus simple d'aller justement directement à l'école supérieure.
Mais du coup, si les parents sont en France, ils appellent une école portugaise qui connaissent l'école de leur village, de leur ville.
Okay, oui, normalement, c'est ça qu'on conseille aux gens, c'est d'aller direct dans l'école de Saint-Noël et de demander de faire des équivalences. Alors, mais beaucoup de fois, c'est les problématiques du temps. Alors, les jeunes terminent les VAC en juillet, reçoivent les résultats des VAC en juillet. Il faut avoir tout au final de juillet pour accéder au
concours. Ça va très vite.
Ça va très vite.
Ça va très vite. Et est-ce qu'on a le droit de s'inscrire même si notre niveau de portugais à la sortie du bac n'est pas parfait ?
C'est une très bonne question. Oui, légalement, oui. Même si après, il faut dire que l'enseignement, c'est en portugais pour la plupart des domaines. Il y a bien sûr des cours sous en anglais, mais je conseille d'avoir un minimum de niveau en portugais.
Oui, c'est peut-être plus simple, mais voilà, ça ne nous empêche pas quand même de nous lancer dans cette aventure-là et d'être à fond dans l'enseignement portugais. J'avais une deuxième question. Donc, est-ce que toi, tu as une solution justement pour pallier à cette première barrière ? Comment on peut simplifier toutes ces démarches institutionnelles, tout simplement ?
Je pense que une manière de simplifier toutes ces démarches, c'est de rassembler tous les acteurs et toutes les institutions qui sont responsables pour ce dossier, et d'amener centraliser dans un bureau, peut-être à Lisbonne, je ne sais pas, des gens qui seront responsables entre juin et juillet pour traiter de toute cette documentation. Alors, je sais que ce n'est pas une demande facile de le faire parce que bon, il faut contacter tous les gens au Portugal pour faire cette démarche. Mais après, je pense que c'est la première raison que les premiers grands obstacles, c'est cet obstacle bureaucratique.
Bureaucratique, donc ça c'est le premier. Mm. Et on a un deuxième également que tu as remarqué. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui. Alors, celle-là, je pense que c'est un des obstacles qu'on comprend moins, surtout quand je parle aux parents des jeunes, c'est que quand on arrive à faire l'équivalence au Portugal, les notes d'examen du bac sont diminuées en quelques dixièmes pour comparaison aux examens portugais. Ça veut dire que, par exemple, en 14 en sciences de la vie de la Terre, ça donne un 13,7 en biologie et géologie au Portugal.
Et comment on explique cette baisse, justement ? Est-ce que tu as une explication, cette différence ?
Je pense que je n'ai pas une explication logique. Je pense qu'il n'y a aucune raison pour cette baisse, surtout parce qu'on a le même système de notes, de 0 avant. Alors, avec toute légitimité, je pense que les candidats des quotas de 7% des immigrants devaient concourir avec les mêmes notes que les candidats portugais, surtout parce qu'ils concourent entre eux.
Pour être sur un pied
égal. Oui. Mais je pense qu'il y a une question très importante, c'est qu'il y a certains cursus, il y a certains domaines où il faut avoir une note minimum. Par exemple, pour médecine, il faut avoir 14. Alors,
Pour participer au quota des...
Oui, par exemple, il faut avoir 14 minimum en mathématiques, en sciences de la vie de la Terre et physique-chimie. Alors, si tu as 14 en physique-chimie en France, tu n'arriveras pas au Portugal parce qu'avec l'équivalence, ça donnera 13,7.
D'accord. Ok, donc on a quand même un gros problème face à ça.
C'est un grand problème, surtout pour des domaines plus demandés comme médecine, médecine vétérinaire, gestion, économie.
On a quelques élèves qui se font refuser quand même l'entrée, justement, à cause de leurs notes.
Il y a beaucoup d'élèves qui n'arrivent pas parce que, voilà, ils ont des notes. Il faut dire que l'enseignement supérieur en France est assez sévère dans les notes. Et c'est une chose qui n'est pas tout à fait comprise dans ce programme. Il faut comprendre qu'au moins, il faut maintenir les notes. Je pense que la solution plus simple et plus juste, c'est maintenir les notes qu'on a en France et pas les faire les baisser.
Et toi, tu vas essayer donc de maintenir ou de faire changer plutôt les choses, de faire évoluer ça ?
Oui, il faut qu'on prouve aux institutions qu'il n'y a pas de raison. Il faut contacter différents acteurs. C'est autre des grands obstacles, c'est qu'il y a différents acteurs qu'il faut contacter pour arriver à bien résoudre ces problèmes. Mais je pense que, voilà, je viens de dire qu'avec toute légitimité, je pense que les candidats portugais en France devaient accéder avec les mêmes notes parce qu'il n'y a aucune raison pour faire baisser les notes. Bien sûr qu'on peut parler que les systèmes, c'est très sévère en France, mais on parle de justice parce qu'on ne parle pas d'augmenter les notes, on parle de maintenir la note.
Oui, donc c'est un long combat quand même qui débute. Et outre ces deux explications, la plus grosse raison, on va dire, de ce freinage, ça a été quand même la pandémie, le Covid-19, et les examens du bac ont été reportés.
Oui. Alors, c'est la raison plus compliquée d'expliquer aux gens. C'est que il faut avoir des examens nationaux pour concourir dans les quotas 7%. Alors, comme les ministères de l'Éducation nationale en France a reporté les examens pendant les années Covid, ça veut dire que ces gens-là n'ont pas d'examens pour concourir au Portugal. Alors, le gouvernement portugais a créé une quota spéciale pour tous ces gens-là. Et sauf que cette quota-là, c'est bien plus compliqué de concourir qu'avec les 7%. Alors,
pourquoi c'est bien, enfin, un peu plus compliqué justement ? Est-ce qu'il y a une explication aussi à ça ?
Il y a une explication, je dirais, bureaucratique. Quand on fait les concours avec les quotas 7%, on a 7% de places pour les immigrants. Pendant qu'avec cette quota qui s'appelle Baggage Autonomous, on a moins de 1% au total avec tout un système très exigeant des notes. Alors, ça veut dire qu'avec les Covid, tous les candidats des quotas de 7% ont bien moins d'hypothèses de réussir.
Et donc, pour répondre à cette problématique-là, l'État portugais a quand même fait quelque chose. Il a créé Hvagage Autonome. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots dessus ?
Oui, alors...
Ça a été mis en place, pour rappel, pour tous les candidats qui n'ont pas passé de bac.
Oui, c'est exactement ça. Sauf que ces vagues d'automne ont bien... c'est bien plus compliqué de réussir à rentrer dans cette vague d'automne parce qu'il faut dire qu'au contraire des 7%, ces vagues d'automne exigent les notes des trois candidats plus cotés des années avant.
D'accord.
Alors, imagine-toi que le troisième qui a rentré dans l'année avant dans un domaine, qui avait 16, il faut avoir 16 l'année suivante pour rentrer. Pendant qu'avant, avec les quotas 7%, tu pouvais avoir 12, par exemple.
D'accord. Donc là, il faut maintenir quand même sa moyenne... 3 années de suite.
Oui. Mais il faut dire aussi que, heureusement, pour Bague d'automne, c'est les dernières années, les prochaines années. Alors, j'espère bien qu'ils vont changer pour les prochaines années, mais on ne sait rien pour les moments.
Donc, on a encore Bague d'automne. Du coup, pendant 2 ans encore, on les imagine présentes?
Oui, pour tous les élèves qui ont terminé son bac en 2019, 2020, 2020, 2021, il y a encore des vagues d'automne. Il faut dire aussi que ces programmes de quota 7%, ça dure maintenant 5 ans. Alors, d'accord, ça veut dire que les gens qui terminent les vagues cette année-là, ils ont encore 5 ans pour concourir à l'enseignement supérieur portugais. C'est un grand avantage.
Et je vois là qu'Antonin en régie a une question. Est-ce que, Antonin, ça a été tenté de partir toi aussi étudier au Portugal?
Bah alors, ça l'a toujours été. Ah bon, c'était ma question portait sur autre chose, mais je peux rebondir là-dessus. Potentiellement, si une personne qui a commencé ses études en France, qui a commencé une école, qui potentiellement a fini sa licence, est-ce que, vu que c'est quand même dans les 5 ans, elle peut aussi concourir dans ces 5 ans à l'admission au 7%. C'est bien ça?
Oui et non. Je vais essayer de m'expliquer. C'est qu'il n'y a pas de... Dans tous les processus bureaucratiques, il n'y a aucune chose légale qui dit que non. Mais on pense qu'il y a des zones un peu gris qui donnent l'idée que non, que les gens qui ont déjà une licence ne peuvent pas concourir. Je ne suis pas sûr, mais ça dépend beaucoup aussi des circonstances. Je peux te donner un exemple. Il y a beaucoup de gens qui font un parcours différent que la licence dans l'enseignement supérieur en France. Alors, il n'y a pas de correspondance à ça au Portugal.
Il n'y a pas de passerelle comme en France.
Par exemple, les prépas, il n'y a pas de correspondance en Portugal pour les prépas. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait ces prépas et qui n'ont pas rentré, par exemple, en médecine. Et qui viennent vers nous, et là-bas, je peux dire oui. Mais ça dépend beaucoup des circonstances.
D'ailleurs, on retient quand même un chiffre positif puisque le nombre de luso-descendants a augmenté de 16% cette année. Comment, toi, tu envisages les prochaines années?
De manière très optimiste, j'espère.
Ouais.
Avant tout, il faut dire que ces quotas, c'est une des grandes conquêtes de la communauté immigrante en France et dans l'étranger. Parce que 7% pour accéder au enseignement supérieur, c'est pas mal. C'est une grande conquête. Et après, je peux dire aussi qu'il y a une volonté politique au Portugal de faire augmenter les chiffres. Mais il faut dire aussi que même si on a 7% de places, il n'y a que 1% qui a encore réussi à rentrer. Alors, c'est pas beaucoup. Après, il faut dire que les vagues d'automne pour les prochaines années sont encore peut-être... active, mais qu'après, sans vague d'automne, je pense que les chiffres vont beaucoup augmenter et je continue à faire de la bonne publicité pour que...
On espère en tout cas. Ouais,
que les gens viennent vers nous pour accéder à l'enseignement supérieur portugais.
En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Georges. Comment on peut faire pour te contacter?
Alors,
par mail.
Il y a un mail, vous pouvez faire directement. J'essaierai de répondre le plus rapidement possible. Alors, c'est réseau@capmagellan.org.
Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par termstad.1 et on transmettra le message à Georges. En tout cas, on reste quand même assez optimiste. On finit cette interview sur un chiffre quand même assez positif avec cette augmentation des 16%. Merci Georges d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors on va faire une courte pause et on revient dans quelques instants, toujours pour l'émission termstad.1. A tout de suite. Vous êtes sur Radio Alpha pour l'émission Termstadt 2.1. Merci d'être avec nous en ce samedi après-midi. J'espère que vous passez un très bon moment de votre côté. Alors Georges Costa, on sort d'interview avec toi. Mais Julie a une question secrète pour toi.
Et oui, c'est la question qui change un peu, un petit peu plus fun. Je voulais savoir, imaginons que là, nous, on sort, on vient d'avoir notre bac.
sachant que Léa et Tony sont en journalisme, Antonin en architecture et que moi j'ai fait une prépa littéraire, tu nous conseilles quoi comme université au Portugal ?
Alors là, je vais être très personnel parce que voilà, je viens de l'Université Nova de Lisboa. Alors je vous conseille vraiment la Faculdade de Ciências Sociais et Humanas de Santa Nova de Lisboa.
Ok. Plus pour nous tous, du coup, ça nous conviendrait à tous.
Pour tous, je pense, oui. Je pense pour tous. Communication sociale, c'est littérature, c'est ça ?
Oui, moi.
Littérature, oui, je pense vraiment que c'est les plus cotés, les plus intéressants. Mais bon, c'est une réponse très personnelle.
Oui, mais bon, c'est ce que je voulais.
Oui.
Du coup, à Lisbonne, c'est ça ?
À Lisbonne.
Franchement, ça fait
Lisbonne.
Et tu dis ni tirer à Lisbonne alors que tu viens de Coimbra ?
Bah, évidemment.
Ah ouais ?
Ah là là.
Pourquoi pas ?
Parce qu'il y a Coimbra, l'université de Coimbra.
Lisbonne, c'est la capitale, t'as plein de commerce et puis il y a les stades de foot.
C'est agréable. Ah ouais, surtout
ouais,
ça.
Après, je pense qu'il faut dire une chose, que ça connecte aussi avec Cota 7%, c'est qu'aujourd'hui, au Portugal, on a en vrai communauté française. Alors, les Français, en tant que langue, gagnent beaucoup de place. C'est aussi pour ça que c'est important de faire venir des jeunes étudiants portugais et franco-portugais, parce que parler français et portugais à ce moment-là au Portugal, c'est un grand valeur pour trouver des jobs, des bons jobs.
Et par exemple, j'ai des amis là, qui sont partis en Erasmus à l'université de Porto, en architecture justement, et qui est une super université d'architecture, et qui ont un très bon programme d'Erasmus avec mon école du coup, et peut-être un jour j'irai.
Si vous voulez un dernier argument pour aller étudier au Portugal, 1€ la bière.
C'est vrai que les prix ne sont pas les mêmes qu'à Paris.
Voilà.
Mais c'est vrai que j'ai oublié l'université de Châteaitour à Porto, c'est très très bien. Il y a très fameux architectes qui ont sorti de là-bas, comme Cisavier.
La ville est sympa.
Qui enseigne
en
encore là-bas.
Ouais. Top. Voilà. Et pour finir cette interview, Georges, c'est le moment toujours de rechercher rapide. Alors, deux options, tu dois choisir celle qui te convient le plus. T'es prêt ?
Oui.
Alors, lire des livres ou voir un film ?
Lire des livres.
Paris ou Lisbonne ?
Lisbonne.
Foot ou basket ?
Foot.
Voler ou se téléporter ?
Voler.
Travailler à distance ou en classe ?
En classe.
La plage ou la montagne ?
La montagne.
La Nintendo ou la Play ? Nintendo, Switch par exemple, ou la PlayStation ?
PlayStation.
Et pour finir, alors vivre définitivement en France ou au Portugal ? Si tu devais choisir.
Au Portugal.
Sans hésitation.
C'est pour les bières, ça.
Au Portugal.
Pas que la bière. Mais bon.
Merci beaucoup, en tout cas, Georges Coche, d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans l'émission à Termstadt 2.1 sur Radio Alpha. Et puis, n'hésitez pas, en tout cas, à contacter Georges si vous avez des questions sur le quota des 7%.
Merci à toi, merci à tous.
Merci beaucoup et merci à vous en tout cas de nous écouter. On se retrouve samedi prochain dès 14h sur Radio Alpha comme d'habitude avec l'équipe de Termstadt 2.1.
Toujours présent.
Toujours là, voilà. On est toujours là en tout cas pour vous accompagner, pour animer votre samedi après-midi. Et puis en tout cas, bonne semaine l'équipe. Bonne semaine à vous.
À la semaine prochaine.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao, Georges. Ciao. Já não são homens de boa vontade. A loucura está a vencer o juízo, o ódio, a amizade. Estão-se a despir de toda a humanidade. Esqueceram o cantar e o sorriso. Já não são homens de boa vontade. A loucura está a vencer o juízo, o ódio, a amizade. Estão-se a despir de toda a humanidade. Vou protestar.
queixar. Estou a alarmar. Vou suplicar ao Deus da vida para os neutralizar.
Vou me queixar.